Si on écoute un peu les prédictions actuelles, dans quelques années à peine, l'intelligence artificielle consommera autant d'électricité qu'un pays entier, genre la Suède ou l'Argentine.
Ouais, c'est les chiffres qui tournent en ce moment et ça fait peur, hein.
Ah bah complètement. On imagine déjà nos rivières asséchées juste pour refroidir des data centers tentaculaires, des usines qui crachent de la chaleur et qui dévorent absolument toutes les ressources de la planète.
C'est clair, hein. Et c'est une image qui s'est vraiment imposée dans l'esprit collectif. En fait, pour être honnête, elle semble même justifiée quand on regarde, la trajectoire assez brutale de la consommation énergétique de ces 2 dernières années.
Oui, parce qu'on a tendance à percevoir une opposition hyper binaire, quoi. D'un côté, la course au progrès technologique, et de l'autre, l'effondrement inévitable de nos ressources.
C'est ça? On se dit qu'on va tout droit dans un mur écologique absolu?
Eh bien, c'est exactement pour ça que les documents qu'on explore aujourd'hui mettent cette idée complètement en pièces.
Ah oui, on est sur un renversement total de perspective.
Totalement. Les notes prospectives et les synthèses technologiques qu'on a sous les yeux avancent une thèse, disons, très audacieuse. Elles prennent le contre-pied absolu de cette angoisse décliniste.
Elles affirment carrément que l'IA va pas provoquer l'effondrement énergétique, mais qu'elle va littéralement le prévenir.
C'est dingue, non? Elle serait en fait le premier paramètre de notre transition écologique.
Exactement. Et l'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre l'erreur de calcul monumentale de ces prédictions catastrophistes.
Une erreur de méthode, en gros.
Oui, leur grande faille, c'est de se baser sur une photographie statique. Elle regarde la technologie telle qu'elle est là, à cet instant précis, et elle tire une ligne droite vers le futur.
Sauf que la technologie ne progresse jamais en ligne droite.
Absolument pas, et c'est ce qu'on va voir en détail. Des ruptures imminentes qui s'opèrent en ce moment même sous la surface vont inverser cette courbe de consommation de manière spectaculaire.
Ok, décortiquons tout ça. Commençons par regarder la réalité en face et comprendre pourquoi les modèles actuels, les fameux LLM, ces grands modèles de langage que tout le monde utilise tous les jours, sont dans une impasse.
Parce qu'il faut être clair, les textes le disent noir sur blanc, le modèle actuel fonce effectivement dans un mur.
Un gros mur même.
Un mur technologique, ouais, et un mur financier. Pour bien saisir le problème, il faut plonger dans la mécanique interne d'un LLM. C'est ce qu'on appelle un modèle autorégressif.
Autorégressif. Donc ça veut dire quoi concrètement pour ceux qui nous écoutent?
Fondamentalement, sa seule fonction, c'est de prédire le mot suivant, ou plutôt le jeton suivant, de manière purement séquentielle.
Il devine le mot qui arrive après, quoi.
Voilà. Mais le truc, c'est qu'il ne le fait pas du tout en comprenant le sens de la phrase, il le fait en calculant des probabilités statistiques sur des milliards de paramètres de connexion. Et ça, à chaque fois qu'il doit générer une seule syllabe.
Attends, donc pour générer une simple phrase de 10 mots, le système doit brasser et rebrasser la quasi-totalité de l'immense base de données sur laquelle il a été entraîné.
Exactement. Il recalcule tout, tout le temps. C'est une boucle sans fin.
Mais c'est une folie énergétique, ça, hein?
Ah ben, si l'on compare cette méthode de calcul par force brute au fonctionnement d'un cerveau humain, oui, c'est une aberration thermodynamique absolue.
Surtout qu'un cerveau humain, ça consomme quoi? Rien du tout.
C'est ça. Un cerveau humain accomplit des tâches de raisonnement hyper complexes, il intègre la vision, le son, il formule des pensées abstraites, tout ça avec la puissance électrique d'une simple ampoule LED de 20 watts.
20 watts. C'est fou.
Et en face, tu as un cluster de serveurs qui fait tourner un LLM et qui exige des mégawatts d'électricité juste pour pondre un petit résumé de texte de 3 lignes.
Et face à cette inefficacité manifeste, la réponse de l'industrie jusqu'à présent a été franchement la pire possible. La bonne vieille force brute. Le fameux scaling up, toujours plus gros.
Ah bah, c'est la loi du plus fort. On ajoute des milliers de cartes graphiques, on engloutit des pétaoctets de données en plus, on construit des hangars de serveurs de la taille de terrain de foot.
Sauf qu'aujourd'hui, la physique et l'économie nous rattrapent, non?
Complètement. Ce modèle subit des rendements décroissants qui sont très sévères. Doubler la taille d'un data center ne double plus du tout l'intelligence de la machine.
Ça double juste la facture d'électricité à la fin du mois.
Voilà. Financièrement parlant, les investissements colossaux qu'il faut pour maintenir cette illusion de progrès continu deviennent intenables. Les coûts explosent.
Au fond, quand on regarde les LLM actuels et ce que disent les documents, on a vraiment l'impression d'être face à la machine à vapeur du début de l'ère industrielle, mais appliquée au capitalisme cognitif.
Une machine à vapeur, c'est une très belle image.
C'est ça, c'est une invention révolutionnaire. On est tous fascinés parce que ça change le monde de voir une machine qui parle. Mais mon Dieu, que c'est lourd, que c'est inefficace et polluant.
C'est clair.
On a l'impression de brûler des tonnes de charbon juste pour avancer à 2 km/h.
C'est exactement ça. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que cet argent colossal qui est englouti dans notre machine à vapeur moderne, il n'est absolument pas jeté par les fenêtres.
Ah bon?
Parce qu'on pourrait vraiment croire que c'est un pur gâchis.
Eh bien, c'est là que les analyses superficielles se trompent lourdement. Nos sources introduisent un concept hyper fondamental ici. C'est le fonds de roulement technologique.
Le fonds de roulement technologique, c'est-à-dire que cet immense gaspillage d'énergie sert en réalité à construire autre chose derrière.
Tout à fait. Les centaines de milliards de dollars qu'on dépense aujourd'hui, ils financent pas uniquement des requêtes inefficaces de chatbots. Ils financent l'acquisition, la numérisation et la structuration de la donnée mondiale.
Et ça, c'est la matière première.
C'est la matière première indispensable, oui. Et surtout, ces capitaux posent l'infrastructure physique, les rails du futur.
Ok, je vois l'idée. Pour supporter la lourdeur des LLM aujourd'hui, on assiste à un remplacement massif des vieux disques durs mécaniques par des disques SSD ultra rapides et ultra sobres dans le monde entier.
On modernise la grille électrique aussi, j'imagine.
Exactement. On tire des millions de kilomètres de fibres optiques. En fait, la machine à vapeur inefficace a justifié et financé la construction de tout le réseau ferroviaire.
Et une fois que ces fameux rails sont posés, on n'a plus besoin de les reconstruire. C'est tout le principe. Ils sont là prêts à accueillir un train électrique à grande vitesse qui sera, lui, infiniment plus léger et performant.
Attends, c'est là qu'il faut m'expliquer le mécanisme. Parce que dire que le train super léger arrive, c'est bien, mais c'est quoi exactement ce changement de paradigme au niveau logiciel?
Ça, c'est la deuxième grande partie de l'analyse.
Qu'est-ce qui va remplacer notre vieux LLM poussif et utiliser ces beaux rails tout neufs?
Les documents mettent en lumière un changement d'architecture massif, qui est d'ailleurs porté par des chercheurs très connus, comme Yann LeCun. C'est l'avènement de ce qu'on appelle le World Model.
Le modèle de monde.
Oui, plus spécifiquement, on parle d'architecture comme la GEPA. C'est l'architecture prédictive d'encastrement conjoint.
Oula, le nom fait un peu peur. Mais concrètement, comment ça diffère de notre LLM qui s'épuise à deviner le mot suivant?
La différence est vertigineuse, surtout au niveau de l'efficience. Comme on l'a vu, le LLM, il devine aveuglément. Il n'a aucune idée de ce qu'il dit. Il ne comprend pas la gravité, il ne comprend pas le temps ni l'espace.
Il recrache juste des statistiques pures et dures.
Exactement. Le World Model, lui, n'apprend pas du tout en ingérant des pétaoctets de texte qu'on a dû étiqueter à la main. Il apprend par observation et par abstraction hiérarchique. En fait, un peu comme un enfant.
Comme un enfant humain, tu veux dire.
Oui, il observe des vidéos, il observe le fonctionnement du monde réel, et à partir de ça, il en déduit les lois physiques et logiques.
Ah, je vois. Donc si on lui montre la vidéo d'un verre qui tombe d'une table, par exemple.
Oui, très bon exemple.
Le modèle classique, lui, va essayer de calculer et de prédire la couleur exacte de chaque pixel de la nappe, la lumière sur le verre, le reflet de la fenêtre. Ça demande un calcul monstrueux pour rien.
C'est ça. Alors que le World Model, face à la même vidéo, il abstrait la scène. Il s'en fiche du reflet de la fenêtre. Il comprend simplement la notion de gravité et l'idée que le verre va toucher le sol et se casser.
Il va à l'essentiel, quoi.
C'est exactement le mécanisme. En s'attaquant au concept abstrait plutôt qu'aux détails granulaires de chaque pixel, le World Model élimine ce qu'on appelle le bruit de fond.
Et donc il n'a plus du tout besoin de ressources computationnelles gigantesques pour calculer des choses complètement inutiles.
Voilà. L'intelligence ne réside plus dans la mémoire brute et le par cœur, mais vraiment dans la compréhension profonde des liens de cause à effet.
Et j'imagine que le résultat sur la consommation d'énergie doit être impressionnant.
Phénoménal! Les sources qu'on a analysées projettent que cette simple bascule d'architecture entraînera une baisse d'environ 90% de la puissance de calcul nécessaire.
Attends, attends, je t'arrête tout de suite. Je veux bien faire un peu l'avocat du diable ici.
Vas-y.
Une baisse de 90%, donc diviser par 10 la consommation d'énergie pour des capacités de raisonnement supérieures.
C'est ce que disent les projections, oui.
C'est très beau sur le papier, hein. Mais regardons le monde réel 2 secondes. Les géants de la tech, les fameux GAFAM, ils viennent juste de dépenser des centaines de milliards pour construire des data centers gigantesques.
C'est vrai.
Et ces data centers, ils sont calibrés sur mesure pour la force brute et la lourdeur des LLM.
Oui, l'infrastructure actuelle est faite pour ça.
Donc, s'ils ont une innovation logicielle magique qui divise leurs besoins par 10, est-ce qu'ils vont pas tout simplement la bloquer?
La bloquer?
Bah oui, il y a une inertie phénoménale. Ils ont sûrement une volonté évidente de protéger la rente de ces infrastructures colossales qui viennent de payer. Pourquoi ils adopteraient un modèle léger si c'est pour que leurs usines flambant neuves tournent à vide?
Alors, c'est une objection qui est tout à fait légitime, et honnêtement, c'est souvent ce que craignent les observateurs extérieurs.
Ça me paraît logique, financièrement parlant.
Mais en fait, c'est sous-estimer complètement la brutalité pure de la logique capitaliste dans ce secteur précis.
C'est-à-dire?
La réalité, c'est que la rentabilité imposera toujours, mais alors toujours, le modèle le plus sobre, de manière implacable.
Ah, parce que l'énergie coûte trop cher à l'usage.
Exactement. Faire tourner un data center rempli de LLM, ça coûte actuellement une fortune colossale en électricité et en refroidissement, et ça jour après jour. C'est un gouffre.
D'accord.
Si une entreprise concurrente réussit à déployer un world model qui offre le même service ou même un service supérieur, mais pour seulement 10% des coûts opérationnels, elle va littéralement écraser les prix du marché.
Ah, je vois. Donc la concurrence les obligera de toute façon à tuer leur propre modèle lourd. S'ils ne le font pas, quelqu'un d'autre le fera.
Absolument. Les coûts de construction des data centers, les murs, les serveurs, c'est ce qu'on appelle en économie des coûts fixes. C'est déjà dépensé, c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière.
L'argent est sorti de la banque.
Voilà. La vraie guerre de la survie économique, elle se joue sur les coûts variables. Et le coût variable numéro un ici, c'est l'électricité quotidienne.
Donc, personne ne va s'amuser à protéger un modèle lourd qui ruine sa propre marge opérationnelle tous les jours.
Jamais de la vie. Les sources nomment d'ailleurs ce phénomène le paradoxe de l'infrastructure.
Le paradoxe de l'infrastructure. Et comment ça va se goupiller au niveau du timing, tout ça?
Eh bien, la temporalité de ce paradoxe, c'est vraiment l'élément clé de l'analyse. Il faut bien comprendre qu'il faut des années, parfois 5 à 10 ans, pour concevoir, autoriser et construire ces infrastructures énergétiques massives.
Oui, on ne construit pas une centrale électrique du jour au lendemain.
Exactement. On prévoit des gigawatts d'approvisionnement électrique qui sont pensés pour l'inefficience absolue des LLM d'aujourd'hui.
D'accord.
Or, le logiciel, lui, il évolue à une vitesse fulgurante. L'ironie de l'histoire, c'est que le temps que ces immenses centrales électriques et ces data centers soient enfin totalement achevés,
Le logiciel aura déjà fait son bond en avant.
voilà, les world models beaucoup plus légers seront prêts à être déployés.
C'est un retournement de situation qui est quand même magistral.
Totalement.
Au lieu de la pénurie électrique apocalyptique qu'on nous annonce tous les jours aux infos, on va se retrouver en fait avec une surcapacité d'infrastructure.
C'est exactement ce que pointent les documents.
On aura construit un réseau surdimensionné pour nourrir des gros dinosaures et au final, ce sont des petits oiseaux ultra-légers qui vont s'y nicher.
Très belle métaphore.
On se dirige vers une surabondance d'énergie disponible pour des calculs qui, eux, seront devenus extrêmement peu coûteux.
Ok, ça a du sens.
Mais il y a un truc qui me chiffonne. Tout ça repose sur le logiciel, on est d'accord?
Oui, l'architecture logicielle.
Donc le code devient hyper léger, très bien, mais ce code, aussi abstrait et intelligent soit-il, il doit bien tourner sur du matériel physique, sur du silicium.
Bien sûr, il faut du hardware.
Si la puce informatique en dessous reste un radiateur inefficace, on a toujours un problème physique insoluble de chaleur et de dissipation, non? L'électricité finit toujours en chaleur.
Absolument, tu as tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs la limite de la révolution logicielle si elle agit toute seule.
Ah, je le savais.
C'est pour ça que les documents détaillent une rupture matérielle, côté hardware, qui est tout aussi fondamentale que le logiciel.
Ok, donc le hardware bouge aussi.
Oui. Le problème actuel sur nos ordinateurs et nos serveurs, c'est ce qu'on appelle le goulot d'étranglement de von Neumann.
Le goulot de von Neumann, c'est quoi ça, en termes simples?
Dans l'architecture informatique traditionnelle, celle qu'on utilise tous les jours depuis les années 1940, la mémoire où sont stockées les données et le processeur qui fait le calcul, ce sont deux éléments physiques bien séparés sur la carte mère.
Et donc pour faire le moindre petit calcul, la donnée doit faire un aller-retour permanent entre les deux.
Exactement. Et chaque fois qu'une information voyage sur ce petit pont physique, elle rencontre une résistance électrique.
Et la résistance en physique, ça génère de la chaleur?
Voilà. Imagine des milliards de données qui font ce trajet des milliards de fois par seconde. C'est ça qui draine toute l'électricité et qui transforme les bêtes serveurs en véritables fours industriels.
D'où les systèmes de refroidissement énormes.
C'est ça. La solution que détaillent nos sources, c'est l'abandon progressif de cette architecture archaïque au profit de l'informatique neuromorphique.
L'informatique neuromorphique, c'est le matériel qui imite biologiquement le cerveau humain, c'est ça, hein?
C'est exactement ça.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment ça fonctionne concrètement une puce comme ça?
Eh bien, au lieu de séparer la mémoire d'un côté et le calcul de l'autre, les puces neuromorphiques intègrent des neurones et des synapses artificielles directement dans le silicium.
Donc le calcul se fait sur le lieu même où la donnée est stockée, plus d'aller-retour.
Exactement. L'information ne voyage plus inutilement. Mais la vraie magie, elle réside dans la façon dont l'énergie est consommée, avec ce qu'on appelle des impulsions, ou des spikes en anglais.
Des spikes? Explique-moi ça.
Imagine une grande ville la nuit. Les plus classiques actuelles, c'est comme si tous les lampadaires de absolument toutes les rues de la ville restaient allumées à pleine puissance en permanence, juste au cas où quelqu'un passerait par là.
Ah ouais, c'est une déperdition d'énergie inouïe.
C'est absurde. La puce neuromorphique, elle fonctionne différemment. Elle n'allume la lumière qu'au moment exact et à l'endroit précis où un piéton pose le pied sur le trottoir. Et elle la coupe immédiatement après son passage.
C'est ultra ciblé.
Au niveau microscopique de la puce, ça veut dire que l'électricité ne circule que là où la donnée circule activement, à la milliseconde près.
Et le reste de la puce ?
L'immense majorité de la puce reste complètement éteinte. Elle ne consomme absolument rien.
C'est fascinant d'élégance quand on y pense.
Et les notes prospectives vont encore plus loin en mentionnant d'autres percées matérielles qui arrivent.
Comme quoi ?
Par exemple, l'ordinateur optique, analogique.
Optique ?
Ouais, avec de la lumière.
Oui, il calcule en utilisant des micro-LED, il remplace carrément les électrons par de la lumière. Le gain de vitesse et d'efficience énergétique est stupéfiant, parce qu'il n'y a presque plus de chaleur générée.
Donc on a une accumulation de ruptures matérielles, le neuromorphique, l'optique, qui s'aligne parfaitement avec la rupture logicielle du World Model.
Voilà, quand tu combines les deux, on comprend vite qu'on ne parle plus d'une petite optimisation pour gratter quelques pourcents sur la facture EDF.
On parle d'un effondrement total et absolu du coût énergétique par calcul.
Et c'est précisément cette convergence qui annule toutes les projections catastrophistes dont on parlait au début. C'est super clair. Mais je dois t'amener sur la partie de la documentation qui m'a personnellement le plus interpellé.
Laquelle ?
Parce que, soyons tout à fait honnêtes, même si la puce individuelle devient extrêmement sobre, notre monde à nous génère une soif de calcul qui, elle, croît de manière exponentielle.
C'est vrai, la demande globale explose.
À un moment donné, l'accumulation purement physique de ces millions de serveurs sur la Terre, ça posera forcément une limite de surface ou de dissipation. Et les sources abordent ce point de rupture.
Oui, elles vont assez loin là-dessus.
Elles proposent une solution qui semble tout droit sortir d'un roman de science-fiction. Déplacer purement et simplement le problème, dans le vide spatial.
Oui, l'infrastructure spatiale. Et ça soulève une question hyper importante sur les limites thermodynamiques de notre biosphère.
La Terre est un système fermé, de toute façon.
Exactement. Même avec des gains d'efficience incroyables, la Terre a des capacités finies en termes de dissipation thermique. On ne peut pas la chauffer à l'infini.
Donc l'espace, c'est pas juste un délire de milliardaire. 1 million de satellites pour faire des data centers massifs flottant dans les étoiles. Mais la logistique pour envoyer tout ça en orbite semble infernale. Pourquoi s'infliger une complexité pareille ?
Pour deux raisons physiques qui sont absolument imparables sur Terre. Premièrement, c'est le refroidissement.
Ah oui, le gros point noir.
Sur Terre, on doit pomper des millions de litres d'eau potable ou alors faire hurler des climatiseurs industriels immenses pour empêcher les serveurs de fondre.
Et dans l'espace ?
Dans l'espace, dès que t'es à l'ombre, le froid absolu de l'univers t'offre un refroidissement radiatif immédiat permanent et surtout qui est 100% gratuit.
Plus besoin de clim.
Et deuxièmement, l'énergie elle-même.
Le solaire.
Oui, un panneau solaire en orbite, il subit pas le cycle jour-nuit de la même manière qu'ici. Il n'y a pas de nuages, il n'y a pas d'atmosphère épaisse pour atténuer les rayons du soleil.
L'énergie est brute.
L'énergie solaire est captée de manière totalement ininterrompue et avec une puissance maximale.
Donc, si je résume, le calcul complexe est fait en orbite, nourri gratuitement par le soleil, refroidi gratuitement par le vide intersidéral, et seule la réponse finale, le résultat cognitif du calcul, redescend sur Terre via une simple onde radio.
C'est ça l'idée.
Mais du coup, le bilan énergétique pour la Terre ?
Il devient littéralement nul. Le calcul ne coûte plus rien à la biosphère.
C'est un principe dingue.
Les textes connectent d'ailleurs cette idée à un concept fascinant que les astrophysiciens appellent l'échelle de Kardashev.
L'échelle de Kardashev, oui.
Avec ça, l'humanité s'approcherait tout doucement de l'échelle 2, c'est-à-dire une civilisation qui est capable de capter directement l'énergie de son étoile mère, notre Soleil, pour alimenter son propre réseau neuronal global.
Tout en préservant l'intégrité thermique de sa propre planète en dessous. C'est l'externalisation absolue de l'infrastructure lourde.
Voilà, on sort l'usine de la maison.
C'est un concept vertigineux, vraiment. Mais, parce qu'il y a un gros mais, c'est une objection incontournable pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu l'histoire des technologies.
Je sens venir le paradoxe.
Ah bah oui, si l'énergie, le refroidissement et la puissance de calcul tombent du ciel, qu'ils deviennent virtuellement gratuits et infiniment efficients, on connaît la nature humaine, hein.
C'est vrai.
L'humanité, elle va pas tout simplement multiplier son usage jusqu'à saturer de nouveau tout le système.
c'est le risque classique.
À chaque fois qu'on rend une ressource hyper efficiente, au lieu d'en profiter pour faire des économies écologiques et se reposer, on s'en sert pour surconsommer de manière extravagante et repousser le mur juste un peu plus loin.
C'est le fameux paradoxe de Jevons.
Exactement. N'est-on pas tout bêtement en train de créer le problème ultime avec une IA gratuite et infinie?
Alors c'est l'argument central des penseurs déclinistes. Pour eux, l'efficacité serait intrinsèquement un piège. Ils considèrent toute augmentation de la consommation comme une défaite écologique absolue.
Ce qui s'entend, vu notre passif.
Mais les documents qu'on a analysés proposent une lecture radicalement opposée de ce phénomène.
Ah oui.
Ils démontrent que le paradoxe de Jevons, quand on le place dans le contexte d'une vraie technologie de rupture cognitive, c'est pas un échec du système. Au contraire, c'est un moteur civilisationnel de progrès.
Mais au fond, c'est exactement comme l'analogie du train au XIXe siècle qui est dans les notes.
Oui, l'analogie du train n'est parfaite pour comprendre ça.
Avant la mention du chemin de fer, les gens naissaient, vivaient et mouraient quasiment dans leur village. Se déplacer, ça nécessitait des chevaux, du temps, une logistique super lourde.
Le besoin de mouvement était réprimé par la difficulté physique de l'époque.
Voilà. Et puis, le train arrive. L'efficience énergétique au kilomètre devient incroyable par rapport à une diligence.
Le coût s'effondre.
Et qu'a fait l'humanité à ce moment-là? Est-ce qu'elle s'est dit « Formidable, nous allons faire exactement les mêmes petits voyages qu'avant, mais on va juste économiser du foin pour les chevaux »
Absolument pas. Personne n'a fait ça.
Non, l'humanité a fait exploser son compteur de kilomètres. On a voyagé partout, on a transporté des tonnes de marchandises, on a surconsommé du transport, et c'est ça qui a déclenché l'ère industrielle moderne.
Si l'on relie ça à la situation globale de l'IA, on saisit l'argument clé des sources. Ce fameux rebond de consommation cognitive, cette surconsommation, c'est exactement ce que nous voulons provoquer.
Ah oui, c'est voulu.
C'est la théorie de l'efficience créatrice, le fameux ratio 80-20.
C'est-à-dire?
Quand une technologie aussi massive que le World Model Neuromorphique s'installe, elle offre 80% de gains purs et immédiats, juste en remplaçant les processus qui étaient inefficaces.
Donc on gagne massivement d'un coup.
Mais l'énergie phénoménale qu'on vient d'économiser permet alors une expansion inédite de 20% sur de nouveaux usages.
Et la différence fondamentale avec le train, c'est la nature de l'outil, j'imagine.
Exactement. Le train, il brûlait de l'énergie physique, du charbon, pour déplacer de la matière physique. L'IA, elle dépense une énergie cognitive ultra sobre pour optimiser la matière.
Elle s'attaque directement à l'inefficience du monde réel. Le but, c'est pas d'avoir une IA gratuite juste pour générer des milliards de faux emails, de spam ou des images de chats mignons à l'infini.
Bien sûr que non. Le rebond d'utilisation de l'IA dont on parle, il va servir de pilote ultra intelligent pour réduire le gaspillage massif dans les 95% restants de l'économie mondiale.
L'économie physique, celle qui pollue vraiment aujourd'hui.
L'exemple le plus concret donné par les textes, c'est la gestion des réseaux électriques, ce qu'on appelle les smart grids.
Ah oui, le gros défi des renouvelables.
Aujourd'hui, on ne sait pas bien gérer l'énergie solaire ou éolienne à grande échelle, parce qu'elles sont intermittentes.
Bah oui, le vent souffle quand on n'en a pas besoin la nuit, et il s'arrête en plein pic de demande à 19h.
C'est le cauchemar des ingénieurs. Seule une intelligence artificielle ubiquitaire, qui est partout, capable de prédire la météo avec précision, d'anticiper la consommation de chaque quartier et d'ajuster le réseau à la milliseconde près.
Seule l'IA peut stabiliser un réseau mondial 100% renouvelable.
Voilà. Elle devient le chef d'orchestre indispensable de l'énergie verte.
Et les applications citées dans les documents s'étendent vraiment à toute l'économie physique.
Oh oui, ça va très loin.
Par exemple, la science des matériaux. L'IA va pouvoir simuler des milliards de structures moléculaires en quelques heures pour, par exemple, découvrir des batteries solides qui n'utiliseront plus aucun métal rare.
La fin du lithium, ce serait une révolution géopolitique et écologique majeure.
Ou encore, l'usinage industriel au dixième de millimètre, piloté par l'IA, qui réduirait les rebuts d'acier de moitié dans les usines.
C'est des millions de tonnes de CO2 en moins.
Et sans parler des algorithmes couplés à l'imagerie spatiale qui vont détecter la signature thermique d'un départ de feu de forêt sur quelques mètres carrés seulement.
Et ça, avant même que le feu ne s'étende et ne détruise des milliers d'hectares. L'intervention est immédiate.
Donc, en résumé, l'IA utilise une fraction minuscule d'énergie propre en orbite pour nous faire économiser des millions de tonnes de matières premières, d'eau et de carburant ici, sur le plancher des vaches.
C'est tout à fait ça. Et cette omniprésence de l'IA nous mène d'ailleurs à la conclusion technologique et sociologique la plus troublante de nos documents.
Troublante, Hein, de quoi on parle?
Ce point de bascule de l'efficience, cette présence partout de l'IA, ça va tuer l'IA telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Tuer l'IA.
Les sources prédisent que d'ici 10 à 15 ans, la fameuse interface du chat, la petite boîte de dialogue, en fait, l'idée même de devoir converser avec la machine, tout ça va disparaître.
C'est un concept tellement contre-intuitif. Aujourd'hui, on ne jure que par le prompt. Il faut des formations pour apprendre à parler à l'IA, lui donner le bon contexte, les bonnes instructions.
Eh bien, c'est justement le symptôme flagrant de son immaturité actuelle.
Ah bon ?
Nous devons lui dicter chaque paramètre précisément, parce qu'elle est aveugle à notre contexte physique et qu'elle ne possède pas encore ce fameux world model dont on parlait.
Elle est bête en fait. Faut tout lui expliquer.
Exactement. Mais lorsque l'IA sera devenue hyper efficiente, qu'elle sera distribuée sur des milliards de puces neuromorphiques à l'échelle de la planète entière,
qu'elle aura une compréhension innée des lois de la physique et des liens de cause à effet,
voilà, le besoin de lui expliquer quoi que ce soit deviendra complètement superflu.
L'IA va devenir structurellement transparente?
C'est le mot juste, transparente.
C'est comme l'électricité finalement. Quand l'ampoule électrique a été inventée, les gens se rassemblaient pour la regarder briller au milieu de la pièce.
C'était un événement technologique conscient, une attraction même.
Alors qu'aujourd'hui, personne ne s'arrête dans la rue pour contempler une prise murale.
Heureusement.
L'électricité, elle est dans nos murs, elle est silencieuse, invisible, et elle fait tourner toute notre civilisation sans qu'on ait besoin de lui formuler une requête explicite pour exister.
Le parallèle est vraiment parfait. L'IA de demain anticipera, elle l'optimisera et corrigera les frictions de notre environnement de manière totalement passive, en toit et de fond.
Sans qu'on s'en rende compte.
L'idée d'ouvrir une application sur son téléphone pour taper une question à un robot nous semblera alors aussi absurde, aussi datée que l'idée de devoir tourner une manivelle à la main pour faire démarrer le moteur d'une voiture moderne.
Quel voyage conceptuel extraordinaire! Si l'on résume cette plongée au cœur de nos documents, on s'aperçoit que la narrative médiatique dominante regarde le problème vraiment par le mauvais bout de la lorgnette.
Totalement à l'envers.
L'intelligence artificielle n'est pas ce monstre dévoreur d'énergie de la fin des temps. Elle est un bâtisseur qui est simplement en pleine phase de chantier.
Un chantier qui est bruyant et gourmand pour l'instant, oui.
Les milliards générés et l'énergie engloutie par l'inefficience temporaire des modèles actuels agissent comme un immense capital d'amorçage.
C'est ça, cela finance l'acquisition de la donnée mondiale, cela force l'industrie à réinventer l'architecture même de l'informatique, avec ces fameuses puces neuromorphiques qui miment le vivant.
Et cela pousse même nos infrastructures de calcul jusque dans le froid de l'espace.
La technologie actuelle, aussi lourde soit-elle, paie à un prix très fort, certes, les fondations d'une société d'hyper-sobriété matérielle pour les décennies à venir.
C'est un changement total de lentille analytique. Nous ne sommes pas du tout en train de foncer dans le mur de la pénurie imminente.
Non, nous traversons juste la zone de turbulence très normale d'une transition technologique classique. L'inefficience brutale d'aujourd'hui, c'est simplement le prix d'entrée pour la sobriété systémique de demain.
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Nous avons commencé cette exploration avec l'image d'un ogre énergétique qui étouffe la planète, pour découvrir qu'il s'agit en réalité du sculpteur invisible et même indispensable de notre sauvetage écologique.
Une conclusion plutôt rassurante.
Mais quand on y réfléchit bien, quand on projette vraiment cette idée de l'IA transparente et omniprésente dans notre quotidien, cela ouvre une porte vers une autre dimension, qui est beaucoup plus psychologique.
Une autre dimension ?
Oui. Si cette intelligence devient véritablement omniprésente et silencieuse, si elle gère l'équilibre de nos réseaux électriques en temps réel, si elle simule et invente de nouveaux matériaux écologiques avant même qu'on ne perçoive qu'il y a une pénurie.
Si elle anticipe tout.
Si elle étouffe chaque crise logistique ou environnementale dans l'œuf, sans que nous n'ayons rien à lui demander, sans même qu'on s'en aperçoive. Que deviendra notre instinct humain face à l'adversité ?
Ah, c'est une sacrée question.
Si notre environnement réfléchit à notre place, s'il résout tous nos problèmes cachés dans l'ombre des satellites et des micropuces, oublierons-nous, en tant qu'espèce, comment affronter et résoudre les crises par nous-mêmes ?
On perdrait notre instinct de survie intellectuelle, en quelque sorte.
Exactement. C'est peut-être la question la plus troublante qui reste en suspens aujourd'hui. Une fois notre grande angoisse énergétique apaisée. Une réflexion bien vertigineuse à garder en tête jusqu'à notre prochaine exploration.